Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est un véritable fléau dans notre pays, les errances de diagnostic pour les différents troubles, en particulier du neurodéveloppement. On va parler de ces errances qui évidemment peuvent poser de gros et de profonds problèmes dans les familles. Vous allez entendre le témoignage d'Audrey. Audrey, c'est la maman de Noah, qui a 12 ans aujourd'hui, et Audrey, il a fallu qu'elle bataille pendant 8 ans pour que le trouble de son fils soit diagnostiqué. Il est autiste Asperger. Donc on écoute Audrey, et après on sera avec le docteur François Pinabel, qui nous expliquera pourquoi dans notre pays, on a tant de mal à accompagner ces familles.
Alors les troubles du neurodéveloppement de l'enfant, c'est vrai qu'ils sont souvent très difficiles à détecter. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir un diagnostic, ça peut même durer plusieurs mois. Et c'est ce qui est arrivé à Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour Agathe.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez 42 ans, pardon, on m'a donné votre âge. Mais bon, voilà, allez, c'est dit. Je suis plus vieille que vous, donc tout va bien. Vous êtes la maman de Noah qui a 12 ans, Lali qui a 9 ans. Et depuis que Noah est né, vous sentez qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Il vous faudra 8 ans d'errance diagnostique pour qu'enfin votre fils soit reconnu autiste Asperger. Et en plus, il a un trouble dysexécutif. Et vous le sentiez. Dès 5-6 mois, déjà, vous avez perçu des différences chez Noah. Mais c'est quand il est entré en maternelle, comme souvent, les enfants sont confrontés aux apprentissages, que là, ça vous a vraiment sauté aux yeux. Comment est-ce qu'il se comportait à l'école, pour qu'on ait une idée?
Il ne parlait absolument pas en classe. Il était isolé. Les enseignants me disaient même que, franchement, il était mutique. Et en fait, il y a juste un jour où son enseignante m'a dit qu'il avait parlé, qu'il connaissait ses lettres, ses nombres, ses couleurs, même en anglais. Et elle a été surprise. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle m'a évoqué le CMP de notre secteur. Parce que, justement, elle me dit s'il parle
Centre
pas en classe...
Centre médico-psychologique, je précise juste voilà. Pour les téléspectateurs.
Et donc, ça a été compliqué. Il a déjà rencontré un pédopsychiatre donc en mars 2013. Mm-hmm. Et le pédopsychiatre l'a rencontré en me disant « Mais vous savez, il est un peu petit parce que Noah est de fin d'année. À 2 semaines près, il ne serait pas encore à l'école. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ça va aller. Sa langue va se délier. » Mais je m'inquiétais quand même, mais je me renseignais, mais tout le monde me donnait le même discours en me disant que je m'inquiétais trop. Donc j'ai fini par laisser.
Vous avez tout de suite été étiquetée mère hélicoptère qui s'inquiète trop.
Exactement.
Quoi. Alors les années de maternelle se suivent, ça n'a jamais été vraiment facile, il faut le dire. En grande section, l'instituteur prend votre fils en grippe en plus. Ah, ça, tous les parents qui nous regardent le comprendront, il n'y a rien de pire. Comment justement se passe l'arrivée au CP après tout ça?
Alors Noah était en grande souffrance psychologique. Il sortait d'une phobie scolaire. Et finalement, son institutrice nous a convoqués au bout de quelques mois en nous disant que pendant 10 jours, il n'avait pas fait son travail en français, qu'il regardait le plafond, qu'il ne rentrait pas dans les apprentissages et qu'en fait, il était paresseux, fainéant, assisté et que voilà, il fallait faire quelque chose. Donc on a pris Noah, on a fait son travail et en fait, il avait réussi à faire son travail. Et comme il avait des problèmes en motricité fine, en écriture, j'ai pris la décision de lui faire voir un ergothérapeute pour tester une éventuelle dyspraxie. L'ergothérapeute a tout de suite écarté la piste en nous disant que c'était pas ça et qu'en fait, il était juste trop jeune, mais qu'il fallait que je rencontre la psychologue scolaire pour éventuellement détecter un haut potentiel intellectuel. C'est avéré qu'en fait, Noah, avec des bonnes compétences en raisonnement, mais un bon vocabulaire, mais par contre, il était excessivement lent. La double tâche le fatiguait beaucoup. Et il avait un retard de langage oral et écrit, mais il était déjà suivi par l'orthophoniste pour ça.
Comment est-ce qu'il était avec ses camarades de classe, en famille? Comment est-ce qu'il se comportait? Est-ce qu'il avait quand même du lien social?
Il n'avait absolument aucun ami. Il n'était pas invité aux anniversaires. Et même pire, il était pris en grippe par certains élèves où il était frappé, hein, clairement. C'était très difficile pour lui et il ne nous en parlait pas. À la maison, il était toujours un peu en retrait dans son train. Il était très souvent en train de faire ses dessins de train. Il jouait au train. Il ne fallait pas beaucoup de bruit. Il s'isolait quand il en avait besoin. Il n'aimait pas les ballons de baudruche. Il en avait peur. Et c'était vraiment... Il avait un comportement particulier. Tout le monde le voyait. Mais c'est parce que c'était sa timidité. Il était différent, mais il ne fallait pas que je m'inquiète.
Ma pauvre Audrey, franchement. Quand Noah a eu 7 ans, vous avez pris rendez-vous avec un neuropédiatre. C'était au Centre des troubles des apprentissages de Lille. Alors, ce rendez-vous, ça a donné quoi?
Ça a été catastrophique.
Ah oui.
Je suis arrivée et en fait, ils ont vu Noah, tous ses bilans. Et la pédopsychiatre, finalement, s'est tournée vers moi, la neuropédiatre, pardon. Et elle m'a dit qu'en fait, Noah, il était comme ça parce que j'étais trop toxique pour lui.
Vous a vraiment dit ce mot toxique ?
Elle m'a même cité, elle m'a dit le pire problème de Noah, c'est que sa mère soit enseignante. Et elle m'a dit que j'étais toxique, que j'étais trop, je le couvais trop, que j'étais trop exigeante avec lui, je lui mets trop de pression. Et qu'en fait, il fallait que je me fasse soigner, que je voie des psychologues, et que c'était à moi de me soigner pour que mon fils aille mieux.
Donc, ultra-culpabilisation. Oui. Vous avez entamé un suivi ensuite. En parallèle, Noah n'a pas progressé en classe. Donc, vous avez décidé de déposer un dossier à la MDPH, bien qu'il n'y ait eu aucun diagnostic clair. Hein, mais non. Vous étiez encore persuadée, heureusement, que vous n'êtes pas laissée aller à vous dire « c'est de ma faute, c'est moi qui suis toxique, etc. » Vous voyez bien, en fait, qu'il a besoin d'aide, quoi. En CE2, vous obtenez une AVS. En CM1, avec la psychologue scolaire, vous commencez à suspecter que Noah soit autiste. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça ? Est-ce que vous avez réussi, alors, à ce moment-là, à obtenir un diagnostic ?
Ça a été compliqué. En fait, je voyais qu'il était différent. Il ne regardait pas dans les yeux. Tout changement le déstabilisait. Changement de lunettes, changement de coiffure, pour moi, il ne m'adressait plus la parole. Et en fait, j'ai eu un élève autiste Asperger à ce moment-là. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, il y a quelque chose, il faut creuser. Je me suis rapprochée de la psychologue scolaire qui a fait quelques tests et qui m'a dit, en effet, je pense qu'il faudrait voir avec la neuropédiatre pour éventuellement le diagnostiquer. Et en fait, quand on a vu la neuropédiatre, elle nous a littéralement rionné.
Oui,
elle nous a rionné. Elle nous a dit que c'était du n'importe quoi et qu'il fallait qu'on arrête de lui faire perdre son temps. Et en fait, le rendez-vous s'est terminé dans le couloir où Noah se rhabillait et qu'il attendait parce qu'il était trop long.
Et on nous a de nouveau, c'était de votre faute et c'est vous qui inventiez n'importe quoi. En préparant cette émission, vous nous avez dit qu'on a dû mettre en place des stratégies pour essayer de survivre au quotidien. Parce que quand on n'a pas de diagnostic, on est bien obligé de s'adapter. C'était quoi ces stratégies ?
Alors, le matin, je organise son linge. Tout est organisé dans l'ordre dans lequel il doit l'utiliser. Je mets la bouteille de déodorant dans la paire de chaussettes pour qu'il pense à mettre son déodorant. Les chaussettes en premier, parce que sinon, il met ses chaussettes au-dessus de son jean, ça ne lui pose aucun problème. Et tout est ritualisé le matin. Il sait tout ce qu'il a à faire dans l'ordre et il ne faut pas changer l'habitude. Mmh. On lui octroie la parole parce qu'en fait, les idées fusent tellement dans sa tête que si ce n'est pas posé, si on ne prend pas le temps avec lui, de lui laisser le temps de la parole, ça ne sert pas pour lui. Donc, on lui laisse le temps, on essaye de le rassurer, je lui donnais des petites pierres en lui disant « ça va te donner un peu de force ». Et on a aussi travaillé beaucoup avec le livre sur la couleur des émotions.
Oui,
voilà,
c'est un outil qui aide beaucoup de parents.
Voilà, et malgré tout, ça ne marchait pas. Mais on essayait de mettre des couleurs et surtout de le faire verbaliser parce qu'il ne dit absolument rien.
Il ne parle pas.
Il faut tout chercher.
Et donc, j'imagine que vous n'arriviez pas à décrypter ce qu'il ressentait au moment M, en fait, c'est ça ?
Alors, étrangement, moi, je le sentais. Je le savais. Et en fait, mon mari me disait « mais arrête de lui poser des questions ». Et en fait, il s'avérait que j'avais raison. Ouais. Il était malade.
L'année de CM2, Noah refait un bilan orthophonique. Vous n'avez pas lâché l'affaire.
Hein. Non.
C'est rien de le dire. C'est en sixième qu'une autre neuropédiatre regarde ses bilans et vous dit « moi, je pense que Noah, il a un trouble 10 déjà ». Donc, on pose un premier diagnostic.
Voilà. Alors, en fait, 10, on savait qu'il avait une 10. On avait cherché dyslexie, mais ce n'était pas vraiment ça. Dyspraxie, ce n'était pas vraiment ça. Dysortho, ce n'était pas vraiment ça. Et en fait, il est dysexécutif. Et c'est son lobe frontal qui ne fonctionne pas correctement. L'activité électrique dans son cerveau fait qu'il n'arrive pas à organiser une tâche. Et ça va parasiter toutes les aires qui sont à côté, qui nous faisaient penser à tout ce qui était dyslexie. Et en fait, c'était dû à la dysexécutivité.
C'est ça.
Par contre, elle a refusé en bloc le TSA.
Ah oui, elle vous a dit...
Elle a dit non, c'est pas ça.
Mais la dysexécutivité, j'ai jamais entendu parler de ça, donc c'est extrêmement rare, non ?
Alors, c'est pas rare. En fait, généralement, c'est toujours lié à un trouble qui est au-dessus. On pense que les enfants sont dyslexiques, mais généralement, ça chapeaute. Et en fait, quand on se renseigne un peu, qu'on lit, on se rend compte que c'est souvent lié au TSA.
Alors, l'année de sixième de Noah s'est bien passée.
Oui.
Vous avez une équipe pédagogique ultra bienveillante, ultra performante. Vous avez entamé de nouveaux suivis cette année-là, mais sans être culpabilisée, en plus avec un enfant qui va mieux, donc ça devait être quand même un peu plus cool. Et là, il y a eu des nouveaux rendez-vous et ça a créé la discorde dans votre couple, avec vos proches. Qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, j'ai voulu lancer le dernier et l'ultime diagnostic parce que je ne voulais pas lâcher. Je dis, on fait le test et si on me dit qu'il n'a rien, je laisse tomber. Mais j'étais vraiment à deux doigts de laisser tomber, de baisser les bras. Et on m'a dit que j'étais, c'était de la maltraitance, en fait. De lui faire faire tous ces tests, c'était de la maltraitance pour lui. Et en fait, il fallait que je lui foute la paix, en fait, tout simplement, et de le laisser grandir et que ça allait finir par s'améliorer.
Et qui vous a dit ça? C'était
alors, dans la famille, les médecins. Non, mon mari, il a été... Alors, il n'était pas forcément pour, mais il voyait que je ne lâchais pas l'affaire. Donc, le voyant, il m'a laissé passer les bilans qui étaient malgré tout coûteux. Parce qu'on n'est pas passé par le milieu hospitalier, on est passé en libéral, mais il a fini par accepter quand même que je fasse les tests.
C'est vos proches qui étaient dans le jugement?
Mais c'est compliqué parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Et donc, du coup, la famille, ils voyaient bien que Noah était différent, mais ils n'arrivaient pas à expliquer pourquoi.
En avril 2021, on est en fin d'année de sixième, vous rencontrez une pédopsychiatre en libéral, et là, enfin, vous allez avoir le diagnostic. Noah est autiste Asperger. Ce que vous pressentiez depuis déjà tellement longtemps. Parce que là, quand je vous dis ça, je vois que vous faites... Ah,
c'est ça.
C'est le soulagement, quoi.
Bah, en fait, déjà, moi, j'ai arrêté de culpabiliser. Elle a vu Noah une fois, je l'ai laissé. La deuxième fois, j'ai fini par lui dire, mais est-ce que je me suis trompée? Et elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, non, madame, vous ne vous êtes pas trompée. Elle fait, quand il y a quelqu'un qui arrive comme ça en nous disant, mon fils a un trouble autistique, elle fait, il y a forcément... un des parents qui s'inquiète et qui le remarque. Elle fait, le problème, entre guillemets, si je puis dire, avec Noah, c'est que vous avez été tellement derrière lui que vous lui avez donné des stratégies de compensation. Et donc, en fait, il a triché. Et il ne pouvait pas être diagnostiqué si on ne creusait pas un petit peu, parce qu'en fait, il a adopté toutes les stratégies qu'on pouvait lui donner. Et il a fallu creuser parce que
il est allé chercher des ressources aussi,
il
évidemment,
trichait bien.
pour tricher.
C'est ça.
Et sur lui alors, sur Noah, qu'est-ce que ça a eu comme impact, ce diagnostic?
Alors Noah, en fait, il était content parce qu'en fait, il a compris sa différence, son côté brut de décoffrage, comme je dis, son franc-parler. Et en fait, pour lui, ça a été un soulagement. Il a fini par comprendre que finalement, sa différence, elle était justifiée, qu'il n'était pas bête, loin de là, parce que souvent, on associe ça à un manque d'intelligence. Et en fait, grâce à ça, il a été reconnu aussi... alors, handicapé. Alors, c'est pas que ça me rend heureuse que mon fils soit handicapé.
Non, mais c'est pour la prise en charge.
Voilà, au moins il a une prise en charge. Bien donc sûr. Là, il est reconnu à la MDPH. Il a une AVS avec lui qui est formidable. Il a réussi à obtenir 17 de moyenne au deuxième trimestre, là en cinquième. Et c'est vraiment. Mais il travaille énormément. Vraiment, il travaille beaucoup. Et il a été pendant tout le parcours vraiment mais exemplaire parce qu'il s'est prêté au jeu. Des tests, des bilans, il en a vu tellement. Mais à chaque fois, il a fait l'effort d'eux pour enfin mettre un mot sur ce qu'il avait.
Quel message vous passeriez aux parents qui sont dans votre situation, Audrey?
Il ne faut pas lâcher prise. Vraiment, parce que j'ai voulu souvent baisser les bras. Vraiment, je n'avais plus envie de me battre. Et il y a eu la dernière petite marche à franchir qui m'a fait enfin donner un diagnostic. Il faut tomber sur les bonnes personnes. J'ai entendu pendant 8 ans... vous n'avez pas eu de chance, vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. Mais il ne faut rien lâcher, parce que je pense que si on le sait, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai une amie qui m'a dit, une maman, ça sait toujours tout.
Et pour répondre à toutes vos questions sur le neurodéveloppement de nos enfants, si difficile à diagnostiquer, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur François Pinamel. Bonjour docteur.
Enchanté.
Merci de revenir sur ce plateau, ça veut dire qu'on ne vous a pas traumatisé la dernière fois?
Non.
Bon, ça va, on est rassurés. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, vous êtes aussi en libéral. Alors je voudrais vous parler un petit peu de petites choses pour lesquelles vous collaborez, qui sont formidables, notamment un média de bande dessinée Instagram qui s'appelle Matin, avec un accent circonflexe, Quel Journal. Et deux fois par mois, vous proposez le décryptage de ces fameux troubles, parce qu'on est totalement paumé, il y en a tellement en plus. Et vous vous basez sur un personnage célèbre de notre histoire, ça s'appelle Autopsie. Et c'est donc à retrouver sur le compte Instagram de Matin, Quel Journal. Et vraiment, allez voir, parce que d'ailleurs, le truc en général est super, et votre participation est formidable. Comment est-ce qu'on explique, dans le cas d'Audrey et dans le cas de tellement d'autres parents, cette errance diagnostique qui dure 8 ans après avoir vu... Mais 1 milliard de spécialistes.
Ce n'est pas forcément très, très long comme période.
Ah bon?
Bien sûr, il y a des parents qui ont des parcours parfois beaucoup plus longs. Surtout qu'il y a des parents qui vont avoir des parcours où non seulement il va y avoir des points d'interrogation sur le diagnostic, entre autres, on va leur dire souvent, ne vous inquiétez pas, il est encore jeune, on a du temps, ça c'est le typique. Mais aussi, on a des parents qui vont directement être orientés vers des prises en charge qui ne sont plus d'actualité, où là, directement, on va dire à la mère, mais écoutez, on pense que c'est vous le problème. Et donc, on va vous proposer une thérapie.
C'est terrible.
Un cas typique. Donc, on part en psychanalyse en pensant que c'est...
Et notamment, l'approche psychanalytique des troubles neurodéveloppementaux est encore très souvent rapportée par les parents. Les témoignages sont nombreux, où ils se retrouvent dans des structures où, d'emblée, on va faire une espèce d'hôpital de jour où on dit typiquement aux parents, et ça, c'est encore d'actualité, il ne faut pas coller d'étiquette. Il ne faut pas poser de diagnostic, laisser du temps. Donc, on reste dans un grand flou.
Il y a beaucoup, beaucoup de professionnels qui disent ça, d'ailleurs.
Bien sûr. Ça reste encore extrêmement d'actualité dans beaucoup de structures. Et les parents sont démunis parce que quand vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, vous allez là, au plus près de chez vous. Et là, effectivement, les structures médicales ou médico-sociales vous disent « bon, c'est là où je vais consulter ». Et effectivement, c'est le genre de réponse que vont avoir les parents.
On se met à la place de ces parents qui sont démunis, qui vont taper à toutes les portes pour avoir des solutions et qui ont besoin d'accompagnement. On a reçu une question en vidéo à ce sujet de la part de Laetitia. Regardez.
Bonjour la maison des maternelles, je m'appelle Laetitia, j'habite Saint-Selve près de Bordeaux et je suis la maman d'Amel qui a 10 ans et qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Avec son papa, nous avons suivi une formation de guidance parentale appelée la méthode Barclay. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé dans notre quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais savoir s'il existe d'autres formations, si oui, lesquelles. Et enfin, savoir s'il existe un site qui puisse référencer ces formations, ainsi que les formateurs qui les dispensent. Merci beaucoup.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la méthode Barclay?
La méthode Barclay, c'est ce qu'on appelle les groupes d'entraînement aux habiletés parentales, qui a été créé par le professeur Barclay, qui est un éminent... professeur de psychologie américain qui est un grand spécialiste de TDAH et qui a effectivement élaboré un programme pour les parents qui se fait en général en groupe, qui permet d'échanger et de leur donner un peu une ligne de conduite, une grille de lecture du fonctionnement d'un enfant TDAH qui ne va pas forcément fonctionner comme un autre enfant parce qu'on s'aperçoit que les parents arrivent avec leurs méthodes éducatives qui ont été transmises par leurs propres parents et qui ne sont souvent pas du tout adaptées au mode de fonctionnement. Si vous êtes trop strict, ça ne va pas fonctionner. Donc du coup, on essaie de... C'est basé beaucoup sur l'éducation positive avec des systèmes de points. Et l'énorme intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir faire des groupes où les parents se retrouvent les uns avec les autres. Parce que quand vous avez des parents qui sont stigmatisés pendant des années, on leur dit votre enfant est mal élevé. Oui. Là, ils ont l'effet miroir et ça leur permet aussi de partager. Et c'est une formation qui est très, très rigoureuse avec un programme en plusieurs séances afin de débriefer les parents au fur et à mesure des séances et des sujets qui ont été abordés.
D'accord.
Elle a fait ses preuves, clairement, depuis plusieurs années.
Madeleine vous demande, maman d'un enfant TDAH multidis, j'aimerais savoir s'il existe des soutiens psychologiques pour les aidants et les parents.
Alors, pour les parents, ça commence à se développer, mais c'est encore malheureusement encore fragile en France. Il y a des groupes, beaucoup pour les fratries, notamment les fratries d'enfants avec autisme. Ça commence à se développer. Pour les parents, c'est encore très anecdotique, ce qui est dommage, parce qu'on voit encore beaucoup de parents qui souffrent de burn-out parental, en fait. Oui. Et ça, c'est en train de se développer avec des méthodes qui viennent beaucoup de Belgique. Ça permet effectivement de pouvoir anticiper, parce qu'on sait que dans les familles où des enfants ont des troubles du neurodéveloppement, vous avez un fort risque de divorce, parce que ça met la famille en stress chronique de façon assez terrible. Et lorsqu'on voit des familles qui, en plus, sont exposées à des stress parce qu'ils n'ont pas de réponse ou des mauvaises réponses, sans compter les réponses inappropriées et des demandes d'aide par la MDPH qui sont souvent très, très catastrophiques, vous avez de multiples raisons d'avoir des parents qui sont dans un éprouvé catastrophique sur des années.
Bien sûr. Julie vous dit, mon fils vient d'être diagnostiqué TDAH, autiste, et il a des troubles de l'opposition. Quand son enfant cumule les troubles, à qui s'adresser pour la prise en charge?
Alors, en théorie, ça doit être les mêmes personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un changement dans la classification. Maintenant, on parle de troubles du neurodéveloppement. Ça va englober tous les troubles qui, justement, vont impacter le développement du cerveau de l'enfant. Donc, on va avoir les troubles praxiques, tout ce qui est moteur, le langage, tout ce qui est cognitif, bien sûr, et les habiletés sociales et les troubles attentionnels. Donc, vous avez le TDAH, les TSA, tous les troubles 10 et le retard cognitif global. Ça s'englobe. Et ce qui est très intéressant dans la nouvelle classification de l'OMS, qui est en train de sortir, qui va être traduite en français, c'est très, très, très bien spécifié. Vous pouvez avoir plusieurs troubles à la fois.
Oui,
parce qu'effectivement, le cerveau, c'est pas...
Et donc, c'est pluridisciplinaire.
C'est pluridisciplinaire. Donc, on doit avoir des professionnels qui sont formés à tout.
Tatiana vous dit, mon fils est TDAH et termine bientôt son année de 3e. Il ne sait pas vers quoi se diriger ensuite. Existe-t-il des formations professionnelles qui prennent en compte ces troubles?
Alors, ça commence à arriver. C'est encore un petit peu tôt. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'effectivement, les troubles neurodéveloppement, on commence à s'y intéresser depuis quoi ? En gros, en théorie, 2005. Mais c'est vrai qu'il y a des recommandations de l'autisme qui sont arrivées en 2012. Et les recommandations dans la prise en charge des TND, les troubles neurodéveloppement, globalement, c'est mars 2020. Donc on voit que oui, la sensibilisation du grand public, les dépistages précoces, ça date d'il y a moins de deux ans. Donc on a encore quelque chose de très frais. Malgré tout, on commence à voir des enfants qui sont diagnostiqués relativement tôt, qui font leur parcours, mais au fur et à mesure, on arrive devant des obstacles qui sont... on a des professionnels qui ne sont pas préparés, par exemple. Et c'est vrai, par exemple, pour le TDAH, quand on voit le profil des enfants TDAH, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément à l'aise assis sur une chaise pendant des années. Oui. Le problème en France, c'est que même pour des formations professionnelles, on est beaucoup dans des bacs pro, où on reste encore sur du théorique assis, il n'y a pas forcément suffisamment de formations en alternance. Maintenant, il y a des métiers sur lesquels ils vont être plus à l'aise. Les métiers, on va bouger, on va être interactif, et on voit quand même certains corps de métiers qui commencent à s'intéresser, par exemple dans la restauration, l'hôtellerie, qui est déjà naturellement un grand recruteur, sans le savoir, des anciens enfants TDAH. Mais malheureusement, à l'âge adulte, on voit des personnes qui souffrent toujours de troubles du fil de l'attention, qui sont hyperactifs. Ça génère un stress. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On voit que c'est effectivement une population qui va être fragilisée par l'utilisation des substances toxiques, comme l'alcool, comme le cannabis, la cocaïne. Et on voit le lien qu'il y a. Il y a certains corps de métier, notamment dans la restauration, où les addictions sont quand même très fréquentes. Et c'est même un facteur de risque. Donc, à partir du moment où on va former les enfants, enfin les adolescents, il y a tout ce parcours encore de sensibilisation, des formations professionnelles, puis dans la médecine du travail, pour accompagner les personnes avec des troubles neurodéveloppement.
Et ça peut être considéré comme un point fort, l'hyperactivité, notamment pour le milieu de l'entreprise.
Exactement, c'est un point fort, parce qu'effectivement, c'est des gens qui ont énormément de qualité, qui sont capables d'être justement dans le coup de feu.
Ils sont proactifs,
Ils sont souvent multitâches.
Voilà, de passer d'une tâche à une autre.
Exactement, très très vite. Ils ne sont pas forcément à l'aise dans la planification, mais en revanche, ils vont être dans les situations d'urgence extrêmement efficaces. Vous en retrouvez beaucoup chez les pompiers, chez les médecins du SAMU, par exemple, aussi. Vous avez, en fait, beaucoup de personnes qui ont ce type de profil vont aller chercher un métier dans lequel ils vont être à l'aise. Quand ce n'est pas le cas, c'est là où effectivement, c'est de compliqué et qui vont pouvoir traverser des dépressions, des burn-out. Et on voit bien, il y a certains corps de métier, par exemple les compagnons du devoir, depuis
les
deux
artisans,
ans, ils ont mis en place, il y a eu un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être vu, et effectivement ils sont en train de mettre en place justement un accompagnement, d'abord une formation des formateurs sur les TND, avec l'idée intéressante qui correspond à l'esprit des compagnons, c'est les gens qui sont formés vont devenir formateurs. Donc si vous formez effectivement des gens au TND, et notamment des gens qui sont eux-mêmes TND, vous allez avoir après des générations qui comprendront ce que sont les TND et vont pouvoir les prendre en compte. Parce que dans les métiers professionnels concrets, vous avez beaucoup d'enfants qui ont été en échec scolaire sur les matières théoriques, qui se retrouvent en filière professionnelle. Et l'avantage de structures comme les compagnons, c'est de l'alternance. Oui. Donc ils sont tout de suite...
Et c'est l'élite.
Il y a un état d'esprit sur le compagnonnage, parce que c'est quand même une tradition séculaire et c'est extrêmement intéressant qu'ils s'intéressent à ça. Ils demandent des renseignements, ils sont en train de se faire former auprès de professionnels et ça, c'est vraiment très révolutionnaire.
TDAH, comment convaincre un ado de 15 ans de passer les tests, nous demande-t-on ?
Le problème d'un enfant, d'un adolescent de 15 ans qui a traversé souvent des obstacles très difficiles avec son TDAH, le premier d'entre eux, ça va être l'échec scolaire. Donc un élève qui est en échec scolaire, vous imaginez l'estime de soi, surtout si le parcours chaotique où il va se faire virer d'un établissement, il va retrouver un établissement privé, enfin c'est la galère. Vous vous retrouvez avec un adolescent qui déjà est complètement découragé, qui souvent baisse les bras. Et là, lui dire, tu sais, ça serait peut-être bien que tu viennes faire des tests. Alors là, il va le prendre souvent en se disant, mais ça y est, on va dire que je ne suis pas intelligent, etc. Donc ce n'est pas forcément facile de l'accompagner. Et c'est là où, effectivement, il faut faire preuve de pédagogie, commencer par lui expliquer son mode de fonctionnement, et que son mode de fonctionnement, certes, est différent, mais qu'il a énormément d'atouts qu'il va falloir valoriser.
Béatrice vous dit, quand on a un enfant atteint d'un trouble du spectre autistique, quel type d'établissement peuvent accueillir ces enfants ? Comment favoriser l'inclusion ?
Alors, en théorie, depuis la loi de 2005, qui accompagne, qui permet l'intégration des personnes avec besoins spécifiques, type handicap TND, tous les établissements sont censés accueillir des enfants. Vous avez des structures qui sont déjà dédiées, ce qu'on appelle les classes ULIS, en primaire, au collège et certaines au lycée, qui sont des dispositifs à plus petit effectif, où les enseignants sont censés être sensibilisés aux troubles. Vous avez des classes ULIS TSA, des classes ULIS troubles du langage, etc. Mais le problème, c'est que dans les classes ULIS, vous avez souvent des petits effectifs de 15 avec l'objectif de les intégrer dans ce qu'on appelle de faire des temps d'inclusion dans les classes ordinaires. Et on incite au maximum les enfants à aller dans ces temps d'inclusion. Souvent, ça peut être du 50, 60, 70%. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on est dans la classe Ulysse avec le temps d'inclusion, dans 95% des cas, ils ne peuvent pas bénéficier d'une AVS, d'un accompagnement scolaire. Donc, on est devant un paradoxe où soit il faut choisir l'AESH, qu'on appelle maintenant, soit l'ULIS.
Alors, l'AESH, c'est quand ils sont en inclusion au sein d'une classe
ordinaire.
Ordinaire. Voilà. Mais alors, du coup, en tant que parent, quand on a un enfant qui est atteint de troubles du spectre autistique, à qui on s'adresse pour faire en sorte que notre enfant intègre une classe dans une école publique, par exemple, avec une AVS, qui faut contacter?
Le circuit officiel, normalement, se fait par l'Éducation nationale. À partir du moment où on a pu poser un diagnostic au sein de la structure scolaire, ils sont censés pouvoir contacter l'enseignante référente qui est détachée à l'MDPH. On fait ce qu'on appelle une équipe éducative de suivi de scolarisation pour évaluer les besoins de l'enfant. Et ça donne une fiche qu'on appelle le GEVASCO. On aime beaucoup les acronymes en France. Ce GEVASCO permet, avec le dossier MDPH, d'être étudié en commission pour que justement cette commission dise « Ok, on va proposer un accompagnement de soit mutualisé, soit individualisé de la personne sur 50, 60, 70% en essayant de cibler les besoins de l'enfant. » Le problème, c'est que lorsque les AESH sont publics, c'est-à-dire sont embauchés par l'Éducation nationale, dans 90% des cas, elles n'ont malheureusement pas accès à des formations spécialisées avant 6 ans d'expérience. Donc vous avez des personnes qui n'y connaissent rien. Et le problème complètement absurde, c'est qu'une AESH n'a pas le droit de se mettre en contact avec les parents durant l'année scolaire.
Non mais attends.
Et c'est justifié par quoi?
C'est justifié que tout est cadré, tout est compartimenté. Non seulement les parents n'ont pas le droit de communiquer avec elles, ce qui est quand même une grande absurdité.
Donc leur enfant passe toute la journée avec cette personne. Et il n'y a aucun moyen.
Tout est compartimenté, alors qu'on dit que dans les troubles de redéveloppement, la clé, c'est la communication entre les équipes et l'école.
Évidemment.
Et notamment le pire, c'est qu'un enfant, par exemple, qui va être accompagné par une équipe pluridisciplinaire, un neuropsychologue, une psychomotricienne, une ergothérapeute, etc., bien, tous ces gens peuvent parler ensemble, mais ne peuvent pas communiquer avec l'équipe pédagogique.
C'est lunaire.
Par exemple, on peut imaginer une accompagnante qui n'a pas de formation, soit, mais si elle pouvait être supervisée par une neuropsychologue, ça serait formidable. Non, interdiction. Et dans une grande majorité des cas, l'établissement interdit aux professionnels de venir à l'école ou au collège pour observer l'enfant, donner des clés aux enseignants. Ils interdisent strictement pour des raisons.
Mais qui interdit, en fait?
Ça va être le règlement de l'éducation nationale.
C'est le règlement d'éducation nationale.
Voilà. Quelqu'un qui ne fait pas partie de l'éducation nationale n'a pas le droit de venir, sauf si cette personne a un agrément. Alors, il y a des structures via des associations de parents qui ont pu obtenir des agréments auprès de l'éducation nationale.
Il y a des exceptions, quoi.
Mais voilà, c'est tout un process et ça n'existe pas dans tous les départements. Donc c'est un parcours du comprenant, on est encore dans quelque chose qui...
On sait tellement que justement, tout compte en fait, hein, que plus on aura une équipe pluridisciplinaire avec les parents intégrés main dans la main, plus on pourra mettre en place des protocoles et puis bon,
donc c'est le parcours du combattant, plus, c'est le parcours. Et si vous ne tombez pas sur les bons réseaux, alors ces structures associatives de parents ont l'agrément pour faire rentrer des AESH qu'on considère comme privés. Ce sont souvent des étudiants en psycho qui vont faire un an ou deux de break pendant leurs études, donc ils connaissent. Sinon, ça peut être aussi justement des gens qui ont une formation, qui vont être formés par les associations et qui vont pouvoir justement être supervisés en temps réel par la psychologue. Ça, c'est l'idéal. Sauf qu'il y a un petit détail à savoir, c'est que quand les parents vont opter pour une AESH privée, c'est eux qui vont la payer.
Ah !
Et éventuellement, ils auront une aide plus ou moins importante, ce qu'on appelle l'allocation d'éducation de l'enfant avec handicap, par la MDPH. Ça veut dire que demander à tous les parents qui ont mis en place une infrastructure privée, ils vous raconteront le budget mensuel, c'est énorme.
Il y a une inégalité, mais c'est atroce.
L'inégalité régionale, c'est vraiment la prise en charge des TND, c'est la médecine à deux vitesses. Clairement, on est là-dedans.
Merci beaucoup au docteur François Pinabel d'avoir, avec cette grande clarté, ouvert nos yeux et nos oreilles sur ces sujets si importants. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. N'hésitez pas à le commenter, à mettre des petites étoiles sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup à être mieux référencés. Et plus on est référencé, et ben plus on est content, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui écoutent ce podcast, et donc c'est une bonne chose. Le temps de vous dire aussi que samedi dernier, on a mis un épisode inédit du podcast des maternelles, donc quasiment une heure de discussion autour de ce sujet, pourquoi et comment mettre nos enfants à la lecture. Si vos enfants sont tout petits, si vos enfants sont moyens ou si vos enfants sont déjà des ados, il n'est jamais trop tard pour se mettre à la lecture. Et donc pendant une heure, on donne des idées pour s'y mettre, pour les aider à s'y mettre. Et puis surtout, on explique ce qu'apporte la lecture aux enfants. C'est un épisode qui m'a beaucoup plu, donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou le réécouter. Voilà, j'arrête avec mon monologue, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne vie. À demain, j'espère, dès 9h25 sur France 2. Ciao.